L'histoire de l'humanité est une longue suite pratiquement ininterrompue de tyrans plus ou moins assoiffés de sang. Je me souviens qu'à l'école, on m'a parlé d'Attila le Hun qui était particulièrement féroce. Au 1er siècle, alors que l'apôtre Paul parcourait l'Empire, régnait le fameux Néron, empereur foudingue et mégalo. Un peu plus tard, ce fut le tour du paranoïaque Domitien qui exila l'apôtre Jean. Comme chacun sait, avec le temps, l'homme évolue, et le XXe siècle s'est caractérisé par toute une flopée de dictateurs plus méchants que des teignes. Les plus célèbres, parce qu'ils buvaient le sang à grosses goulées, étant Staline et Hitler. Pourtant, l'humanité n'a encore rien vu de ce que peut faire une grosse brute épaisse à côté de qui Attila fera figure d'enfant de cœur. Mais qu'on prenne patience, car c'est prévu sur le calendrier eschatologique. On appelle ce tyran l'Antéchrist, mais les Écritures lui donnent d'autres noms. Il sera de très loin le pire et le plus cruel des despotes que la terre n'ait jamais porté. Dans le second chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans le grec, Paul le désigne comme l'homme du péché, le fils de la perdition et celui sans loi. S'il parle de cet être impie, c'est uniquement pour répondre aux questions des Thessaloniciens qui étaient dans la plus grande confusion sur la séquence des événements de la fin des temps. L'apôtre leur avait déjà donné un enseignement précis concernant l'enlèvement de l'Église et le jour du Seigneur. Pourtant, quelques mois plus tard, ils étaient à nouveau troublés, croyant encore avoir raté l'enlèvement de l'Église et vivre le jugement du jour du Seigneur. Ils avaient bien reçu la première lettre de l'apôtre, mais à cause des persécutions sévères qu'ils enduraient, les Thessaloniciens n'arrivaient pas à se défaire de l'idée qu'ils étaient confrontés au châtiment divin de la fin des temps. Leur désarroi était intensifié par la présence de faux prophètes qui prétendaient que tel était l'enseignement de Paul. Dans sa première épître, l'apôtre avait pourtant démontré que les croyants ne pouvaient pas être dans le jour du Seigneur. Mais, voyant que ses explications n'avaient pas suffi, il va donner davantage de détails pour le prouver une fois pour toutes qu'il était impossible qu'il soit confronté aux tribulations du jour du Seigneur parce que l'Antéchrist ne s'était pas encore manifesté. Je commence à lire le deuxième chapitre de la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. L'objectif de l'apôtre n'est pas de verser dans le sensationnalisme et de satisfaire la curiosité des chrétiens du 1er siècle sur les événements de la fin des temps. Sa lettre est pastorale, il veut corriger les erreurs doctrinales des Thessaloniciens et les réconforter, et il le fait avec beaucoup de douceur. Littéralement, Paul dit « Nous vous supplions, frères ». Sa mention de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui semble indiquer deux événements distincts. Mais en réalité, il s'agit d'un seul, ce qui est attesté par la syntaxe de la phrase et par l'utilisation du mot « parousie » que l'apôtre emploie pour décrire le retour du Christ qui vient chercher les croyants. L'apôtre parle donc ici à nouveau de l'enlèvement de l'Église, parce que ces braves croyants continuaient à penser qu'ils l'avaient raté et se trouvaient en proie au jugement divin. Je continue le texte. « Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. » Verset 2. « Le jour du Seigneur ne concerne pas l'Église. Dès que celle-ci aura été enlevée, le temps de la grâce sera terminé et alors commencera un nouveau régime qui est le jour du Seigneur. Pour les Hébreux, le jour débutait avec la nuit. De même, le jour du Seigneur commencera avec les ténèbres de jugement sévère qui seront suivies du règne de 1000 ans de Jésus-Christ. L'expression « jour du Seigneur » apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament. Le prophète Joël en parle en détail et l'apôtre Pierre le cite lors de la Pentecôte parce que, d'une part, ce jour-là, le Saint-Esprit se manifestera par le biais de prophéties et de révélations, et d'autre part, des phénomènes son et lumière fabuleux auront lieu. Je lis le passage. « Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, sans feu, colonnes de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. » Fin de citation. À la Pentecôte, les disciples ont effectivement prophétisé dans toutes les langues représentées par les Juifs de la diaspora se trouvant à Jérusalem. Mais aucun autre signe miraculeux n'eut lieu. Pendant que Jésus agonisait sur la croix, des ténèbres couvrirent la région et au moment de sa mort, il y eut un tremblement de terre. Mais pour la Pentecôte, rien de tout cela, sinon un grand bruit annonçant les flammes de feu qui se posèrent sur la tête des disciples. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Pierre parle encore du jour du Seigneur quand il dit « Il viendra comme un voleur ». En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Fin de citation. Ce passage ne concerne pas l'Église qui veille et attend la venue de Jésus. Mais le monde qui est spirituellement endormi, léthargique, sera alors surpris, en état de choc, comme le sont ceux qui se font dévaliser la nuit alors qu'ils se reposent paisiblement. Le vocabulaire de l'apôtre montre que pour les jeunes croyants de Thessalonique, c'était la grosse panique à bord. Mentalement, ils avaient fait naufrage et s'étaient laissés emporter sur une mer d'angoisse. Leur foi, paix, joie avaient été descendues en flammes et réduites en cendres par l'enseignement trompeur, mais bien orchestré de faux prophètes se disant inspirés de Dieu et ayant produit une lettre supposée venir de l'apôtre Paul. Quand Paul dit « Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler », il utilise une double négation qui veut dire « Ne laissez personne vous tromper d'aucune manière ni en aucune façon ». Le verbe traduit par ébranler était utilisé pour décrire un tremblement de terre et un bateau à l'ancre laissant filer ses amarres en pleine tempête. Quant au verbe troubler, il veut aussi dire effrayer, épouvanter. En d'autres mots, les Thessaloniciens étaient complètement désemparés parce qu'ils s'attendaient à être enlevés dans la gloire et goûter le repos céleste, mais au lieu de cela, ils subissaient des persécutions qui, à leurs yeux, signifiaient qu'ils étaient en train d'endurer la colère du ciel. Leur état d'effroi et d'agitation prouve que l'apôtre Paul leur avait enseigné que l'enlèvement de l'Église précéderait le jour du Seigneur auquel ils échapperaient. Mais à cause des persécutions qu'ils subissaient et des mensonges propagés par les faux prophètes, prétendant tenir leurs informations de l'apôtre lui-même, ils croyaient vivre les jugements du jour du Seigneur. Par contre, si Paul leur avait enseigné que l'ordre des événements de la fin des temps était le jour du Seigneur d'abord avec ses jugements, puis l'enlèvement de l'Église ensuite, les Thessaloniciens se seraient réjouis parce que les persécutions auraient signifié que le retour de Jésus-Christ était proche et donc leur délivrance imminente. Or, ils étaient déconcertés, confus et dans l'angoisse parce qu'ils s'attendaient, je le répète, à ce que l'enlèvement de l'Église ait lieu avant le jugement de Dieu. Cette deuxième lettre qui dénonce les mensonges que les faux prophètes avaient répandus était d'une importance capitale. Pour cette raison, et afin de l'authentifier, Paul la conclut en disant « Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul, c'est ainsi que je signe toutes mes lettres, c'est là mon écriture. » Les Thessaloniciens n'auraient pas dû se laisser berner aussi facilement parce qu'ils savaient pertinemment bien que l'apôtre Paul n'était pas du genre à contredire par une soi-disant lettre ce qu'il leur avait enseigné en personne et rappelé dans sa première épître. leur crédulité était une réponse émotionnelle au stress de la persécution qu'ils enduraient déjà depuis longtemps. Cependant, la vérité n'est pas déterminée par les sentiments du moment ou les circonstances, mais par l'enseignement des Écritures. Ce que Dieu dit doit dépasser et supplanter n'importe quelle situation. Oui, tout ça, c'est bien facile à dire, j'en conviens, car dans le feu de l'action, il n'est jamais simple de garder la tête froide. Je continue le texte. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant que n'ait lieu le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme sans loi, le fils de la destruction, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Versets 3 et 4. Le jour du Seigneur, qui commencera par des jugements sévères, aura lieu après le grand rejet de Dieu. Le mot ainsi traduit a donné en français « apostasie » et veut dire « défection, révolte ou rébellion ». Il est utilisé une autre fois dans le Nouveau Testament où il signifie « abandonner l'enseignement de la loi de Moïse ». L'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament emploie « apostasie » trois fois pour exprimer la rébellion contre Dieu. L'apôtre Paul n'a pas en vue une apostasie au sens général du terme, puisqu'il y a toujours eu des millions et aujourd'hui des milliards d'hommes qui se rebellent contre le seul vrai Dieu. Ici, il parle d'une action blasphématoire qui est particulière, abominable et extrême, du jamais vu en quelque sorte. Cet acte est lié à l'homme sans loi. De toutes les multitudes d'êtres humains blasphématoires qui, au travers les siècles, ont vécu sans loi, l'Antéchrist sera le pire que la terre ait jamais porté. Il personnifiera la dépravation, la perversion et la méchanceté. Il sera un leader mondial, mais cachera son jeu et sa véritable identité jusqu'à ce qu'il commette cet acte blasphématoire qui le dévoilera et révélera qui il est vraiment. On a identifié ce personnage avec plusieurs tyrans particulièrement odieux, comme le roi syrien Antiochus IV Épiphane, qui en l'an 168 avant Jésus-Christ a profané le temple juif et l'a consacré à Zeus. Il fut vaincu 3 ans plus tard grâce à la famille de prêtres qui s'appelait les Maccabées. Soit dit en passant que chaque année, les Juifs célèbrent cette victoire par une fête qui s'appelle Hanouka. Ensuite, il y a eu les empereurs romains Néron et Caligula, et plus proche de nous, certains ont identifié l'Antéchrist à Staline et Hitler. Mais ce personnage diabolique n'apparaîtra qu'au début du jour du Seigneur et donc après l'enlèvement de l'Église. L'homme sans loi n'est pas le principe du mal ou une personnification de Satan, car plus loin, le texte le désigne spécifiquement comme étant un homme qui apparaît grâce à la puissance du diable. Il s'appelle le fils de la destruction parce que d'une part, il essayera d'anéantir tous ceux qui sont fidèles au seul vrai Dieu, celui des Écritures saintes, et d'autre part, lui-même ira à la destruction éternelle. Selon le Nouveau Testament, il est un autre individu qui porte le titre maudit de fils de la destruction, c'est Judas. Avec l'Antéchrist, il constitue les deux plus grands monstres que l'humanité a portés. L'histoire de Judas est déconcertante. Il a vécu dans l'intimité avec le Fils de Dieu pendant plus de 3 ans. Il a vu sa sainteté et sa perfection. Il a expérimenté sa puissance et son amour, puis il l'a trahi. Ce comportement tout à fait irrationnel est dû au fait qu'il était possédé par le diable, mais ça, il l'a bien voulu. L'Antéchrist fera pire encore. Au début de son règne, il se posera en ami des religieux, fera même une alliance avec le peuple juif, puis soudainement, après avoir été 3 ans et demi au pouvoir, il se déclarera lui-même Dieu et commettra un acte de profanation abominable dans le temple juif reconstruit. Tirant son énergie du diable et secondé par le faux prophète, il jouira d'un pouvoir immense au point même où le monde entier l'adorera. Satan, qui a toujours cherché l'adoration, verra ainsi son désir indirectement réalisé. Après ce volte-face et cet acte abominable, l'Antéchrist imposera un règne de terreur à la Staline en même temps que Dieu châtiera le monde avec sévérité pendant 3 ans et demi. La chrétienté officielle aura alors totalement abandonné la foi, au point où l'apôtre Jean la qualifie de « grande prostituée ». Jésus a annoncé ces événements quand il a dit à ses disciples « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Une question de rhétorique à laquelle on doit répondre « non ». Pendant ces 3 ans et demi, ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, seront devenus croyants, se verront pourchassés sans répit comme les chevreuils lors d'une chasse à cour. À la fin de ce temps de jugement, Jésus-Christ reviendra pour anéantir le royaume de l'Antéchrist. Puis, lui et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. La séquence des événements eschatologiques est donc la suivante. D'abord, tous les croyants disparaissent de la surface de la terre. L'Antéchrist vient au pouvoir sous des faux semblants. Après 3 ans et demi, il commet un acte abominable qui s'appelle l'apostasie, ce qui déclenche la grande tribulation qui dure elle aussi 3 ans et demi et qui se termine par la seconde venue de Jésus-Christ sur terre qui instaure son royaume 2000 ans. Paul ne s'étend plus sur l'enlèvement de l'Église parce qu'il en a déjà amplement parlé dans sa première épître. Je rappelle d'ailleurs le principal passage. Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Fin de citation. L'Antéchrist réussira à donner une explication rationnelle à la disparition soudaine de millions de gens lors de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup se réjouiront, pensant qu'une nouvelle ère de prospérité va commencer sans se douter que c'est la tribulation qui les attend, dont la seconde moitié sera une suite de châtiments terribles comme le monde n'en a encore jamais connu. Je continue le texte. « Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas ?» Verset 5. Les croyants doivent se cramponner à ce qu'ils savent être vrai sous peine de se laisser tromper par leurs sentiments du moment ou par un faux prophète. Le verbe, traduit par « je vous disais », est à un temps qui indique une action qui se répète dans le passé. En d'autres mots, pendant les quelques mois que Paul était à Thessalonique, il a fréquemment donné un enseignement sur la fin des temps. En conséquence, ce qu'il dit dans cet épître n'est pas nouveau puisqu'il ne fait que rappeler des vérités que les Thessaloniciens connaissaient déjà. Le fait qu'il les ait instruits en détail sur ce sujet montre que l'eschatologie et la séquence des événements qui doivent arriver à la fin des temps font partie des rudiments de la foi chrétienne. Comme j'ai déjà dit, l'objectif de Paul n'était pas de verser dans le sensationnel en décrivant un spectacle son et lumière fascinant, mais de répondre aux questions des Thessaloniciens afin qu'ils retrouvent la joie et l'espérance qu'ils avaient perdues depuis qu'ils croyaient avoir manqué le rendez-vous de l'enlèvement de l'Église et se trouver en plein jugement divin. Je continue le texte. « Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. » Verset 6. « En fait, nous ne savons pas ce qui le retient. » Ce verbe « ce qui le retient » est un participe présent neutre, ce qui ne nous avance guère. Par contre, grâce aux enseignements qu'ils avaient reçus de Paul, les Thessaloniciens, eux, savaient exactement ce qui empêchait la venue de l'Antéchrist. C'est pourquoi l'apôtre ne rappelle pas dans cette lettre de quoi ou de qui il s'agit. Ce silence a fait naître plusieurs possibilités concernant cette force qui retient l'Antéchrist. Ce qui est sûr est qu'elle est supérieure au pouvoir des hommes ou même des anges. Elle est donc d'origine divine. En effet, seule la puissance de Dieu est capable de retenir le bras de Satan. Or, à l'heure actuelle, Dieu est présent sur terre par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite les croyants. Une fois l'Église ôtée du monde, l'action du Saint-Esprit sera beaucoup plus limitée et ponctuelle sur terre, ce qui donnera davantage de liberté au mal et au diable. De toute façon, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté et grande sagesse, décide le cours des événements sur terre. L'Antéchrist fera donc son apparition quand Dieu le voudra. Par l'un de ses prophètes, l'Éternel a dit « Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Fin de citation. La venue du Messie s'est faite lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé. Il a envoyé son fils, né d'une femme. Pareillement, l'apparition de l'Antéchrist se fera au moment fixé par Dieu.